Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
En Tanzanie, les Maasai sont des guerriers, des seigneurs de la steppe. Leurs contes recèlent leur mythe fondateur et reflètent leur société. Ils nous révèlent un peu de leur quotidien. L'irrationnel et le réel se mêlent. La lutte permanente entre les héros et les forces démoniaques cristallise le combat entre le bien et le mal. Au-delà des traditions, les questionnements existentiels demeurent universels. Éric Fayet connaît très bien ce peuple. Il nous raconte son histoire et son parcours qui l'ont amené à vivre en terre Maasai.
Yes, donc là on est sur le festival du Grand Bivouac, on est dans le hall, je sais pas comment il s'appelle, mais il y a plusieurs agences qui proposent différents voyages un peu partout dans le monde. Je me suis arrêté devant ton bouquin, donc avec moi Éric Fayet, qui propose un livre sur les Maasai, légende de Tanzanie. Donc le sujet m'intéresse, avant de m'intéresser à ton bouquin et de savoir ce que tu as fait, ce que tu as mis dedans, c'est toi qui va m'intéresser, j'ai envie de comprendre un petit peu qui tu es, qui est Éric, quel est ton parcours, ton itinéraire, et qu'est-ce qui t'a emmené un jour, peut-être il y a longtemps déjà, en dehors de nos frontières, de la France.
Alors bonjour d'abord, puis merci de t'être intéressé au bouquin. Donc moi je suis Éric, j'ai fait des études d'histoire et je me suis très tôt intéressé à des pays lointains comme le Brésil. À 11 ans je savais que j'irais un jour au Brésil et mon bac en poche, à 18 ans je suis parti. Et l'idée était d'aller rencontrer les Indiens d'Amazonie, ce que j'ai fait, et d'écrire sur eux, etc., ce que je n'ai pas fait. Et à 24 ans, au moment de faire le service militaire, parce qu'à l'époque en France on faisait encore un service militaire, j'ai eu la chance de partir comme coopérant et je voulais retourner en Amérique latine, notamment au Brésil. Et le ministère des Affaires étrangères, dans sa grande sapiens, dans sa grande sagesse, m'a envoyé dans un pays où je ne serais jamais allé, c'est-à-dire la Tanzanie. Et là, ça a été un coup de foudre. J'ai rencontré des amis fidèles, forts, avec qui on est toujours amis. Et grâce à eux, depuis, je retourne très régulièrement en Tanzanie. Et c'est dans ce cadre de ces voyages que j'ai fait le livre dont on va parler tout à l'heure. Mais une curiosité... Enfin, j'aime les autres, quoi. J'aime les pays lointains. Et c'est un rêve de gosse de pouvoir aller à la rencontre de peuples comme les Maasai.
Mais pourquoi, gamin, tu rêvais déjà de ça? Est-ce que dans ta famille, dans ton itinéraire personnel, tu avais des grands voyageurs, dans tes oncles, dans tes parents, ou comment tu expliques que, très jeune déjà, tu avais envie d'aller ailleurs et d'écrire déjà?
Alors, moi, je suis un bouseux.
Quoi, un bouseux?
Je vais t'expliquer. Mon papa, il est auvergnat, il vient d'un bled. La commune, c'était 140 habitants. Où t'es soit paysan, soit artisan, tu vois. Et ce qui n'est pas du tout péjoratif, hein. Moi, je suis moi-même petit-fils de paysan. Et ma maman venait de Lyon, et la vie a fait qu'ils se sont retrouvés, c'est en Auvergne que ça s'est passé, et j'ai grandi, en fait, dans cette commune où il y a 140 habitants. Alors, il y a deux solutions. Soit tu restes, à peu près toute ta vie au même endroit, et tu construis une vie qui peut être passionnante, soit très tôt, tu as envie de partir, non pas parce que les gens ne sont pas intéressants, mais parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont acheté des encyclopédies, qui m'ont filé des livres, même si je viens d'un milieu qui est plutôt un milieu très classe moyenne, basse, quoi. Et voilà, et ça m'a ouvert là-dessus. Après, pour dire la vérité, ce qui était déjà le cas, mais pour insister, ce qui m'a vraiment donné envie de voyager, c'est quelques rencontres littéraires. Corto Maltese, donc Hugo Pratt, qui est un maître absolu, et Bernard Lavilliers, bizarrement, et, enfin non, pas bizarrement, parce qu'il est lui aussi un grand voyageur, et c'est quelque chose, la rencontre avec son travail, son album Voleur de Feu, quand j'avais 14 ans, a été... je me suis dit, oui, il faut vraiment que tu ailles au Brésil. Alors, je voulais déjà y aller, mais ça m'a conforté dans ce choix. Et je voulais y aller à cause de Corto Maltese et d'une petite BD totalement inconnue qui s'appelait Mister No. Quand j'étais petit, on achetait ça. C'était les BD à 5 francs ou 10 francs qui sortaient tous les mois. Et ça se passait en Amazonie. Tout ça s'est construit comme ça, quoi.
C'est génial de voir comment, enfant, on peut se passionner pour quelque chose, qu'on peut se sentir inspiré par une personne, par une image, par un documentaire sonore ou par une émission télé, et ça peut nous diriger dans un chemin qui va conditionner notre vie.
C'est ce que tu fais toi aujourd'hui, en fait. Je pense que le nombre d'émissions que tu fais à l'étranger ou dans les festivals vont aussi faire qu'il y a des futurs nous, quoi, qui sont en train de naître. Enfin, j'espère que ce sera ça. C'est vrai que, je sais pas si ça t'est arrivé, mais on voit que quand j'étais gosse, par exemple, à l'école aussi, il y avait un mec qui était venu faire un reportage. C'était sur la Birmanie interdite. C'était sur ce fameux triangle là, en Birmanie, le triangle de la drogue et tout. Il était venu, c'était un type, il était parti avec son sac à dos, une caméra sur l'épaule. J'ai dit, c'est ça que je veux être, en fait. Bon, je sais pas tout à fait ce que j'ai été, mais en tout cas, avec les livres, ça m'a permis de faire ça, quoi.
Ouais, mais t'es allé vers ça quand même. Donc après, quand tu finis tes études, c'est là où tu te tournes vers la coopération, hein, qui était pour toi finalement un moyen d'aller vivre cette expérience que dont tu rêvais, vivre à l'étranger.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au Brésil, j'étais parti parce que mes parents étaient des gens vraiment super, quoi. J'avais pas passé mon bac encore. J'arrive, je leur dis, bon, allez, dans un an, je pars au Brésil. Mon père, qui était employé de banque, me dit, bon, bah d'accord, on va faire un prêt étudiant. La réaction, c'est pas passe ton bac d'abord, c'est ok, il faut qu'on trouve un moyen de financer ton rêve, quoi. Alors que je suis parti un an. Et quand je suis rentré, je me suis dit, la prochaine fois que tu pars, tu bosses sur place, ou enfin, t'es payé, quoi. Tu dois le faire, tu dois gagner ta vie en voyageant.
Parce que là, le premier projet, il n'y avait pas vraiment. Enfin, le premier voyage, il n'y avait pas de projet, c'était simplement aller à la rencontre des peuples. T'avais pas en tête d'écrire, de dessiner, de filmer ou de photographier.
Il y avait l'idée de photographier. Mais si tu veux, j'avais pas de super appareil photo et. Mon appareil photo, je l'ai acheté au bout de 6 mois à Manaus, au Brésil, dans la zone franche. Et donc après, bah là, pendant 6 mois, ouais. Là j'ai ramené du Brésil, je crois que j'avais ramené 700 diapos ou un truc comme ça, parce qu'à l'époque, c'était des diapos. En 6 mois, c'était pas mal. Ça, pour un non professionnel, ça commençait à envoyer du bois, quoi. Mais si tu veux, j'avais pas l'âge. J'avais peut-être pas la maturité pour produire quelque chose qui aurait vraiment été valable, quoi, à mes yeux. Parce qu'après, je suis assez perfectionniste sur le travail, donc ça ne me satisfaisait pas, donc j'en ai rien fait. Et donc, je m'étais dit, la prochaine fois, tu partiras vivre dans un pays, mais cette fois, tu es. Et donc, la coopération. J'avais un copain qui l'avait fait et je trouvais que c'était un moyen génial, quoi.
Et donc, maintenant, on va partir dans l'Amérique centrale pour aller vers l'Afrique. Donc, la coopération, c'est 2 ans en Tanzanie. Tu t'es retrouvé à Arusha, dans une ville qui est pas loin de la fameuse montagne du célèbre Kilimandjaro, qui culmine, je crois, pas loin de 6000 mètres, peut-être même un petit peu plus, qui est le toit de l'Afrique. Donc, tu t'es retrouvé projeté là-bas, dans un endroit que tu ne connaissais pas du tout.
Absolument pas. Et je n'avais jamais eu l'intention. Quand j'étais passé une fois en Afrique en rentrant du Brésil, à Dakar, et c'était ma seule expérience africaine. Alors, l'Afrique m'intéressait, notamment j'avais étudié la décolonisation, etc., dans mes études d'histoire, mais je n'avais pas une attirance particulière. Ok, pourquoi pas, quoi. Mais c'était pas. Alors que l'Amérique latine, c'était ancré, quoi. C'était quelque chose de profond. Et je suis arrivé en Tanzanie presque par hasard, quoi. Et là, ça a été un coup de foudre, mais tu vois, un coup de foudre sur le long terme. Quand tu restes 2 ans, il y a le côté coup de foudre et il y a le côté j'apprends à connaître le pays avec une certaine. Enfin, il n'y a pas d'angélisme dans tout ça. Il n'y a pas le côté, voilà, je tombe amoureux d'un pays parce que j'y suis passé une semaine et tout est beau, tout est merveilleux, quoi. C'était un pays que je connaissais bien au bout de 2 ans. 2 ans où tu travailles sur place. Et les amitiés qui se construisent aussi en 2 ans sont des amitiés qui peuvent être en tout cas profondes. Moi, j'ai une seconde famille en Tanzanie. Le mari est français, il s'appelle Marc, c'est devenu mon meilleur ami. Et la femme s'appelle Rukia, elle est tanzanienne. Et tous les deux, c'est comme une seconde famille, quoi.
Parle-moi de la coopération, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est que partir en coopération? C'est un mot qu'on entend de moins en moins aujourd'hui.
Oui, parce que on entend de moins en moins, parce que c'est plus vraiment nécessaire. L'idée, enfin, ça serait nécessaire qu'il y ait plus de coopérants, mais comme il n'y a plus le service militaire, il y a moins de coopérants service national. Bon, en gros, c'est simple, quoi. Plutôt qu'aller faire le bidas, j'ai eu la possibilité, parce que j'avais fait quelques études, et aussi en demandant les postes, en battant pour avoir ça, de partir comme ça, d'être délégué de l'armée au ministère des Affaires étrangères, et le ministère des Affaires étrangères a besoin de quelqu'un à Arusha. Arusha, c'est le nord de la Tanzanie, c'est la porte ouverte sur les parcs. Ils avaient notamment besoin de quelqu'un, parce que je suis parti, c'était en 1997. Je suis arrivé la première fois en Tanzanie, c'était le 14 janvier 1997. Et depuis peu, le TPIR, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, était installé à Arusha. Donc la France avait besoin d'avoir un homme sur place, quoi. Quelqu'un sur place qui puisse éventuellement lui dire ce qui se passait là-bas. Et donc, ils ont ouvert un poste avec un institut panafricain de formation qui s'appelait Eastern and Southern African Management Institute, qui en fait formait des responsables administratifs et des responsables d'entreprise de à peu près tous les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud. Et moi, j'enseignais le français français là-bas. Et aussi, j'étais chargé de mettre en place petit à petit ce qui était devenu une alliance française. Il y en avait une avant qui avait été fermée parce que c'était un peu une histoire un peu bizarre, quoi, un peu d'escroquerie. On n'avait pas bien compris, donc elle avait été fermée donc, pendant 10 ans, donc il fallait recréer quelque chose. Et petit à petit, c'est ce que j'ai fait, j'ai recréé une alliance française qui depuis existe. Et moi, j'en ai jeté les fondations, vraiment les bases même. C'était vraiment roots et artisanal ce qu'on faisait, quoi. On projetait des films sur un drap blanc avec un vieux projecteur. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme, tu vois, aussi un peu d'histoire un peu romantique qu'on peut avoir de ce que peut être la coopération en Tanzanie, je l'ai un peu vécu, ça. Et voilà, et ces 2 ans ont été assez formidables aussi pour ça, c'est-à-dire que c'était une manière d'approcher le pays, d'approcher les expatriés, d'approcher, de vivre sur place qui était assez différente, en ayant aussi un statut privilégié, il ne faut pas se raconter d'histoire, quoi. C'est plus facile de vivre dans un pays comme coopérant que comme salarié local, quoi. Ça c'est sûr.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs, donc grâce à toi, on voyage. Là, j'aimerais que tu nous recrées un peu une dimension visuelle, parce que tu nous parles d'Arusha, tu nous parles de 1989. Essaie de nous décrire ce qui s'y passe, comment c'est, comment on vit Arusha, qu'est-ce que c'est qu'Arusha, qu'est-ce qu'on y trouve, et où est-ce que c'est.
Donc bon, la Tanzanie, c'est en Afrique de l'Est, c'est au sud du Kenya, c'est au nord-ouest de Madagascar, pour essayer de simplifier. C'est constitué de, en fait, le Tanganyika, l'ancien Tanganyika et Zanzibar qui se sont réunis, et ça a donné la Tanzanie. Et au nord de la Tanzanie, il y a cette ville qui s'appelle Arusha, qui est en superficie, enfin, et en nombre d'habitants, la deuxième ville du pays après Dar es Salaam. Et c'est l'équivalent, si vous voulez, tanzanien de Nairobi, en fait. C'est l'autre côté de la frontière, quoi. Bon, il y a 400 km qui séparent les deux villes, mais c'est l'autre côté de la frontière par rapport au Kenya. Et donc, on est, quand on arrive à Kilimanjaro Airport. Si on a de la chance, c'est que le temps est clément, ben on survole le Kilimandjaro avant d'atterrir. Et là, il faut imaginer, vous êtes au pied du Kilimandjaro et puis vous avez la savane qui s'étend, ce qu'on appelle le bush là-bas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même pour les Français, qui pourtant ont plus d'attache avec l'Afrique de l'Ouest, comme je dis souvent, l'Afrique telle qu'on la rêve, telle qu'on l'imagine enfant ou même plus tard adulte, quand on la rêve, c'est en fait à la Tanzanie qu'on rêve. L'image qu'on a de l'Afrique, l'image de cette Afrique parfaite, de savane, du roi lion, bien sûr, Out of Africa, tiré du livre de Karen Blixen, J'avais une ferme en Afrique, au pied de la montagne d'Ungong. Et bien, c'est cette Afrique-là, quoi. C'est l'Afrique du Kenya et de la Tanzanie. Et avec d'autant plus que c'était 20 ans en arrière, une authenticité, si tu veux, le mot ne veut rien dire, sauf pour la Tanzanie, à mon avis, qui était palpable, quoi. C'est un front pionnier. Moi, j'ai eu l'impression d'arriver un peu comme dans une ville pionnière de l'Ouest, de l'Ouest américain. Mais bon, c'est pas une ville pionnière, c'est pas le Far West. Mais je veux dire, bon, t'es dans un endroit qui est en train de construire, qui se construit, en fait, où tout est possible. Et au-delà de cette ville-là, ben, d'un côté, tu as le Kilimandjaro, et puis de l'autre côté, tu as ces fameux parcs, dont le Serengeti, où 60% des émissions animalières sont tournées. Donc, je veux dire, c'est à la fois l'inconnu et le connu, quoi. Tu te retrouves sur quelque chose que tu as déjà vu ailleurs, mais déjà vu à la télé, je veux dire, mais qui n'existe finalement nulle part ailleurs. C'est une beauté aussi, c'est une beauté naturelle, c'est une beauté... Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et moi, ce que j'aime, en fait, pas profondément, après je veux dire les hommes, mais ça on pourra en parler, c'est l'objet du livre, mais je suis jamais aussi vivant que quand je foule la latérite et que je suis au milieu de ce bush, parce que entre les paysages qui sont immenses, où il n'y a pas de traces d'humanité, voilà, d'humanité dans ce qu'elle a de mauvais, je veux dire, il n'y a pas un immeuble, quoi, pour simplifier les choses, et où tu sais pertinemment, parce que les sons que t'entends, il suffit d'entendre le rugissement d'un lion pour te rappeler que, contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas réellement au sommet de la chaîne alimentaire. Je trouve que ça nous ramène à une forme d'humilité, si tu veux, ces endroits sauvages, qui nous aident d'abord à une forme de méditation, si on en a envie, mais qui en plus, là on a une vraie dimension, on fait partie d'une planète et on n'est pas le seul animal important sur cette planète. Je ne sais pas si tu es par exemple déjà allé au pied de chute d'eau, moi ça me l'avait fait aussi à Iguaçu, cette impression que la nature est tellement forte que finalement on est assez peu de choses. Iguaçu, c'est au Brésil. Et donc, c'est ça. Et à côté de ça, tu as des villes qui sont des espèces de fronts de pionniers où tout est en train de bouger. Et maintenant, c'est encore plus fort parce qu'il y a 20 ans qui sont écoulés, Internet est arrivé, des gens construisent des routes en dur, qui d'ailleurs au bout d'un moment redeviennent des pistes. Mais tout ça est toujours en effervescence. Et les champs du possible sont très ouverts.
Dès que tu quittes les zones urbaines et que tu te retrouves dans ce bush, comme tu dis, c'est là où tu te rends compte que l'emprise n'a du temps sur rien et tu vis une vie qui serait la même il y a 100 ans, 200 ans, 2000 ans.
Tout à fait. C'est-à-dire que pour comprendre la Tanzanie et même les Maasai, il faut comprendre que tout ça correspond à des réalités multiples. Les Maasai, par exemple, tu en as de toutes sortes. Tu as des gens qui vivent de manière extrêmement traditionnelle. C'est-à-dire que tu as des Maasai qui vivent de manière traditionnelle, comme à l'époque des grands explorateurs, quelque part, et toi-même, quand tu y vas, tu peux te ressentir un peu comme ça, c'est-à-dire dire je suis un peu dans les pas de ces gens-là, et d'autres qui sont vice-président de la République, et qui vivent comme toi et moi aujourd'hui, quoi, dans une société qui est la même, avec des téléphones, etc. Et entre tout, tu as tous les panels possibles. Moi, je connaissais des jeunes Maasai, par exemple, qui étaient chefs des guerriers de leur village, des moranes. Chez les Maasai, ça veut dire porte-parole d'eux. Hein, c'est pas tout à fait, ça veut pas dire commandant, mais je traduis comme ça, c'est plus simple. Et qui, à la ville, étaient employés dans des hôtels. Alors le truc, c'est que quand les vieux les appelaient, les vieux sages les appelaient en disant « faut organiser une cérémonie pour les moranes », le type, il quittait son vêtement d'hôtelier. Des fois, il disait rien du tout à son employeur, il se barrait, il partait dans le bush et il allait vivre sa vie de Maasai. Tu vois, et il était entre les deux cultures en permanence. T'en as d'autres qui vivent de la même manière qu'il y a 200 ans et t'en as d'autres qui vivent plus du tout comme ça. La Tanzanie, c'est ça. Parce que c'est vrai pour d'autres peuples tanzaniens. Et c'est ça aussi... Tu as raison, tout à l'heure tu disais quand tu quittes les centres urbains, tu arrives dans des zones où tu pourrais être comme il y a 200 ans. En tout cas où tu as la même mentalité qu'il y a 200 ans. C'est-à-dire que même s'il y a une forme de modernité entre guillemets qui arrive, les gens sont toujours pareils. Quand tu arrives dans un village tanzanien, l'accueil n'a pas changé. Enfin, si tu arrives dans une démarche aussi qui n'est pas une démarche touristique où tu sors pas et tu sors les appareils photo et tu prends les gens en photo... sans parler avant, oui, et là l'accueil il va peut-être être différent, mais je veux dire aujourd'hui tu vas dans un village, on va t'offrir à manger, on va t'accueillir chez soi, on va essayer d'échanger avec toi.
Les Maasai, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce peuple et de ce qu'on en connaît?
J'ai pas la prétention d'être le spécialiste international des Maasai. Je les connais un petit peu, notamment pour ceux de la Tanzanie. Donc t'as raison, les Maasai ils vivent à cheval sur le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie. Ils sont séparés en plusieurs sections géographiques et en clans. Ce qui fait d'ailleurs qu'entre les sections géographiques et entre les clans, il y a beaucoup de points communs. Par exemple, un point commun, une valeur identitaire forte, c'est la langue. Maasai, ça veut dire les hommes, les êtres humains, qui parlent Maa. Donc la première valeur identitaire, c'est la langue. La deuxième, c'est l'élevage extensif, bovin, semi-nomade. Ça, c'est ce qui fait un Maasai, quoi.
Donc la langue sera la même du côté kényan que du côté tanzanien.
Pour les Maasai qui parlent Maa, oui. Et du coup, il y a ces similitudes. Mais comme les deux pays ont évolué de manière très différente à une époque, surtout le XXe siècle, les conditions de vie des Maasai ont été très différentes. Par exemple, au Kenya, ils ont été parqués dans des réserves très, très, très tôt et des réserves... très petite, enfin un peu comme les Indiens d'Amérique en fait. Et donc ça a eu des conséquences graves sur la manière dont ils pouvaient pratiquer leur élevage semi-nomade et tout, alors que les Tanzaniens restaient encore jusqu'à récemment sur des très grands espaces. Le tourisme allait beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus massive au Kenya qu'en Tanzanie, qui était un pays qui était aligné sur le socialisme. C'est un pays socialiste à l'africaine, avec d'excellents côtés, d'excellentes choses, et puis d'autres moins, qu'on peut juger comme moins bonnes. Et notamment, une fête que l'ouverture vers l'extérieur était moins importante, donc du coup, il y avait moins de gens qui y allaient. et ce qui peut être une bonne chose aussi. Et donc on est, disons que les Maasai de Tanzanie ont été beaucoup moins vite, ont moins connu un problème d'acculturation, moins tôt, que les Maasai du Kenya. D'où l'intérêt, si tu veux, de s'intéresser aussi un petit peu aux Maasai de Tanzanie, parce que pendant longtemps, ce qui était vrai pour les touristes, c'était vrai aussi pour les chercheurs. Les chercheurs, les spécialistes sont allés beaucoup vers le Kenya parce que c'était plus facile d'y aller, puis parce qu'il y avait un vrai travail à faire, notamment de défense et de ce peuple. Et Xavier Piron, par exemple, a fait un super boulot. Et je le salue d'ailleurs au passage s'il écoute cette émission. La Tanzanie, c'était différent, quoi. Ça se faisait plus en douceur, etc. Aujourd'hui, ça s'est accéléré. Depuis 20 ans, depuis 10 ans, les choses se sont accélérées. Il y a un phénomène d'acculturation et de restriction des terres de pâture pour les Maasai qui est de plus en plus fort. Alors, c'est quoi ? C'est un peuple donc, de semi-nomades qui parlent une langue, qui, comme dans l'imaginaire collectif, sont des guerriers. Et ce sont des guerriers. C'est le territoire qu'ils ont conquis et qu'aujourd'hui, ils sont en train de perdre. Ils l'ont conquis les armes à la main, quoi, entre le 15e et le 18e siècle. C'est des éleveurs. Et à partir de là, ce sont des hommes comme vous et moi, quoi. Ils s'occupent de leurs enfants, ils ont des rites funéraires, et c'est ce que j'ai exploré avec eux, quoi.
Est-ce qu'ils sont accessibles ? Est-ce qu'on peut les rencontrer ? Est-ce qu'on peut partager du temps avec eux ? Apparemment, toi, tu as fait tout un travail avec les Maasai.
Oui, d'abord, les Maasai, c'est un peuple très accueillant, par définition. Bien sûr, les rapports sont un peu faussés aujourd'hui parce qu'il y a des notions d'argent liées au tourisme, etc. Mais pour faire le travail sur Maasai Légende de Tanzanie, on est allé dans des villages éloignés où on a un apport très différent, hein, et une relation différente, je veux dire, qui est moins entachée que celle qu'on peut trouver par ailleurs. Mais globalement, ce sont des gens très accueillants. Après, il faut les respecter. Si tu arrives, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, quoi. Si tu arrives, tu sors ton gros appareil photo avec ton zoom et tu n'as pas dit bonjour, tu prends un cliché, ça peut assez mal se passer. Parce que, comme je dis toujours, les Maasai, ce n'est pas parce qu'ils portent des sandales qu'il faut croire qu'on peut leur chier dans les bottes. Parce qu'ils ont ce vieux fond de guerrier quand même, qui fait que la notion de vie et de mort n'est pas tout à fait la même que chez nous, quoi. On peut quand même vite prendre un coup de massue dans la tête s'ils ne sont pas contents. Mais enfin, pour les mécontenter, il faut aller assez loin dans le... dans l'impolitesse et dans l'affrontement, quoi. C'est des gens accueillants. Nous, on arrivait, on leur expliquait le projet, ils nous accueillaient, on se posait, on palabrait, parce que c'est normal, c'est l'Afrique, c'est comme ça, il faut se comprendre avant de se parler. Et une fois qu'on s'était bien parlé, et ben vas-y, quoi. Ils se livraient et ils nous ont livré des choses extraordinaires, quoi. Je veux dire, ils nous ont raconté des histoires qui se transmettent de génération en génération et qui n'avaient jamais été émises par écrit. Et c'est celles qui sont dans ce livre. Et ça, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et ils l'ont fait de bon cœur. Et quand moi, petit journaliste français, j'étais avec eux et je leur posais par l'intermédiaire de quelqu'un des questions sur la vie, la mort, les enfants, comment vous les élevez, vos relations avec les Blancs, vos non-relations avec les Blancs, vos rites funéraires, etc., ils ont répondu de bon cœur. Et il n'y a pas un village où on a été mal accueilli. Et on est allé dans beaucoup de villages. Et on est retourné dans ces mêmes villages. Parce que par contre, la relation, elle s'est construite. Elle s'est construite dans le temps. Comme je disais tout à l'heure, moi j'avais vécu 2 ans. Mais pour faire ce travail sur les Maasai, c'est 5 années. 5 années, aller 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépendait des années. Là-bas, spécialement pour aller dans les villages collecter ces légendes. Et c'était fait avec des Tanzaniens. C'était, tu vois, organisé.
Eric, raconte-moi une histoire.
Ok. Au commencement...
Raconte-nous une histoire.
D'accord, je peux vous raconter une histoire. Voici fort longtemps, avant que les Wazungu, c'est les Blancs, ne viennent s'installer en Afrique, les Maasai vivaient, et heureux, dans des montagnes verdoyantes. Et ces Maasai, en fait, ils vivaient heureux parce que Ngaï, leur dieu, créateur des hommes et de toutes choses, leur avait donné les troupeaux. En fait, Ngaï avait 3 fils. Le premier... Au premier, il avait donné les flèches et les fruits. Et ça donnait les chasseurs-cueilleurs et les animaux. Au second, il avait donné une houe pour cultiver la terre. Ça donnait les cultivateurs. Et à son fils préféré, qui s'appelait Natérocop, il avait donné le bétail, en fait. Et lui, c'est le père de tous les Maasai. Et un jour, les chasseurs-cueilleurs un chasseur-cueilleur jaloux a demandé à Ngaï, donc le dieu créateur de toutes choses, de lui donner aussi des troupeaux. Et Ngaï a refusé, il a dit non, ça c'est à ton frère Natirokop. Toi, je t'ai donné ce qu'il fallait pour survivre. Tu as les fruits, tu peux chasser les animaux. Les Maasai, eux, n'ont pas le droit. Et de rage, le chasseur-cueilleur a coupé la corde par laquelle le troupeau d'Ngaï descendait sur la terre. Peut-être que pour nous, cette corde, d'ailleurs, c'est la Voie lactée. Ça, je ne sais pas. Et depuis, en fait, eh bien, Ngaï ne peut plus envoyer ses troupeaux sur la terre, mais pour cette raison, tous les troupeaux de la terre appartiennent aux Maasai. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont pu, comme ça, aller vers les autres peuples et leur dire « Ces troupeaux sont à nous, nous les prenons. Si vous les avez volés, enfin, si vous les avez, c'est que vous nous les avez volés. »
Donc il y a vraiment une spiritualité, et j'imagine aussi une sagesse Maasai.
Oui, alors là, c'est une sagesse qui permet de justifier la razzia, quand même. Hein. C'est ce qui leur a permis aussi de conquérir tout ce territoire. Et d'un autre côté, il y a aussi une règle de vie qui fait que les Maasai, normalement, le vrai Maasai ne cultive pas et ne chasse pas, ne tue pas les animaux. Ça a des conséquences hein, sur l'écologie quand on dit oui, parce que le problème, c'est que les Maasai, ils peuvent abîmer dans les parcs, etc., naturels et tout. Non. De ce point de vue-là, non. Après, il y a des problèmes avec les troupeaux et tout. Mais bref. Et quant à la spiritualité Maasai, oui, elle est très forte. Ils croient en un dieu qui s'appelle Ngaï, un dieu au dieu visage. Ngaï le rouge, qui est de la couleur du soleil, donc de la sécheresse, donc de la misère pour les Maasai. Et Ngaï le noir, alors chez nous, ça serait peut-être différent. Ngaï le noir, dit Ngaï Narok, qui est Ngaï généreux, qui fait venir la pluie, donc l'herbe, donc des troupeaux. Donc quand les troupeaux sont bien nourris, ben, les Maasai sont heureux. Ça fait Ngaï, c'est quelque chose de très fort. Ngaï qui vit... Enfin, dans l'une des maisons est le fameux Oldonio Lengai, qui veut dire la montagne de Dieu, qui est justement cette célèbre montagne qui est à côté du lac Natron. Et dans la spiritualité Maasai, par exemple, beaucoup d'éléments naturels sont comme des antennes, en fait, pour communiquer avec Ngaï, y compris le Kilimandjaro, qui est la plus grande montagne d'Afrique, comme tu le disais tout à l'heure, et qui fait 5895 mètres. Je vous conseille d'aller en haut, moi je l'ai fait une fois. C'est bien crevant, mais c'est accessible. Et dans la spiritualité Maasai aussi, il y a un personnage qui est très important qu'on appelle Loloiboni ou Leibon. C'est une sorte de chaman Maasai. Et c'est vrai que c'est des gens très particuliers. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un d'entre eux. Réellement, quand il te regarde au fond des yeux, tu te dis que ce type-là, tu n'as pas besoin de lui parler pour qu'il te mette à jour et il te transperce réellement en l'âme. Et les plus doués d'entre eux, paraît-il, savent lire l'avenir.
C'est une image que j'ai. Peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse, peut-être que tu vas la démystifier, mais j'aime imaginer que si demain, Internet s'arrête, le système bancaire fait faillite, Wall Street s'effondre, l'alimentation n'arrive plus dans les supermarchés... J'aime penser qu'il existe encore sur cette terre certains peuples pour qui cela n'impactera absolument rien dans leur quotidien. Est-ce que c'est le cas des Maasai ?
Alors, deux choses. La première, c'est à tous les Maasai, non. À certains Maasai, ça va changer beaucoup de choses. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, certains d'entre eux vivent de manière tout à fait comme toi et moi. Hein. Internet a beaucoup d'importance. Par contre, pour beaucoup de Maasai, et notamment ceux qu'on a rencontrés et qui nous ont raconté les légendes, franchement, ça leur fera ni chaud ni froid, quoi. Et une chose est sûre, c'est que tous, sauf peut-être ceux qui sont vraiment impliqués dans notre vie contemporaine, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs strates. Il y en a qui vivent à moitié comme les Maasai traditionnels et à moitié comme nous aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui vivent de manière totalement traditionnelle. Je pense que si cela arrive, les Maasai feront partie des rares peuples qui, en tout cas, réussiront à sauver leur peau dans cette affaire-là. Oui.
Et qui pourront continuer à vivre comme ils vivaient déjà il y a 100, 200, 300 ans.
Oui, qui pourront continuer à vivre comme ils vivaient il y a 100, 200, 300 ans. Et puis, si les choses devenaient vraiment graves, je pense qu'ils feront partie de ceux qui seront plus les plus à même de défendre ce qu'ils ont, voire de... Bon, la vie n'est pas forcément obligée de se terminer en Walking Dead non plus, mais... Tu as raison de poser la question.
Le bouquin s'appelle « Maasai, légende de Tanzanie », Eric Fayet.
Donc des contes illustrés et aussi des photos d'Eric. Merci à toi pour cet éclaircissement, pour cet éveil, pour ce partage avec nous d'une petite tranche de ta vie, de ton vécu.
Bah, merci à toi, c'était super d'en parler avec vous tous et voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.